notre prof d'éco.
Oui, voilà, je veux dire, écoutez, j'essaie de voir clair dans votre programme économique, et ensuite revenons sur la menace que évoquait Bruno, parce qu'on peut en parler. Donc, d'un côté, M. Bardella explique que ce qui va être important pour déterminer son programme, c'est de faire un audit auprès de la Cour des comptes. La Cour des comptes réclame des réductions de dépenses extrêmement importantes, qui vont jusqu'à 100 milliards. De l'autre côté, Madame Le Pen explique qu'il faut un sérieux budgétaire, une trajectoire budgétaire pour faire en sorte de rétablir les comptes. Et de l'autre côté, vous expliquez que vous voulez dépenser à tour de bras, à la fois pour les EHPAD, pour des logements sociaux, en estimant que vous allez pouvoir récupérer des sous à la fois sur la politique migratoire d'un côté, et de l'autre côté, vous voulez vous montrer généreux sur la TVA, sachant qu'en plus un taux de TVA, il va falloir voir avec l'Union européenne si c'est possible. Donc vous voulez dépenser à tout va, tout en même temps expliquer que vous êtes capable de conduire la trajectoire budgétaire. Je suis même pas sûr que ce que vous voulez faire sur, par exemple, le prix du gaz arrive pour les Français, parce que je vous rappelle que le prix du gaz à 55% dépend de l'entretien du réseau et à 37% du prix du gaz sur les marchés mondiaux. Donc je ne sais pas comment vous arrivez, dans un même programme économique, à expliquer que vous allez contenir la dépense, alors qu'on fait face à une procédure de déficit excessif de la part de l'Union européenne, et en même temps dépenser à tout va de l'autre côté. Donc j'ai l'impression que dans votre programme, vous allez vendre en termes de pouvoir d'achat de la poudre de perlimpinpin aux Français. Alors bon, j'aimerais que vous
nous expliquiez. C'est un peu, pardonnez-moi, monsieur, c'est un peu fouillé. Vous mettez un peu de tout, des choux,
des carottes. Non, on peut expliquer
plusieurs logiques. D'abord, sur répondre sur les marchés, vous dites que les milieux économiques sont inquiets. Mais les milieux économiques n'attendent pas qu'on pressure la France populaire, qu'on lui en fasse baver, qu'elle ne sache plus comment compter, boucler les fins de mois. Ils n'attendent pas ça, les milieux économiques. Ils attendent une politique de cohérence. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On a un État qui prélève beaucoup. En France, on paye beaucoup d'impôts, qui redistribue mal et qui, parce qu'il redistribue mal, a ouvert des tas de guichets, c'est-à-dire a distribué des chèques qui ont pesé énormément sur les finances publiques et qui n'ont rien résolu fondamentalement. Donc nous, on veut sortir de ça. On a dit, l'objectif, il est de 5,5%, je crois, de déficit. C'était ça l'objectif négocié par le gouvernement avec l'Union européenne. On est prisonnier de cela et on est prisonnier de l'ardoise qui nous est laissée. On est d'accord là-dessus. On n'est aucunement responsable des 1000 milliards d'euros de dette. Oui, enfin, on n'est pas responsable. Oui. On hérite de tout ça. Non, mais d'accord. Mais on peut dire qu'on se lave les mains.
Oui, mais vous acceptez les règles.
J'y arrive. Non, mais d'accord, mais monsieur, okay. J'y arrive. Mais enfin, admettez, reconnaissez avec objectivité que le Rassemblement national n'a aucune responsabilité dans l'addition qui est livrée et dans la situation que vivent nos compatriotes.
Demain,
nous voulons avoir des choses qui soit cohérente. D'abord, des mesures de pouvoir d'achat qui soient urgentes et efficaces. L'annulation de hausse du prix du gaz, elle se fait, celle-ci, puisqu'elle est prévue au 1er juillet, plus presque 12% de prix du gaz, elle peut être annulée par un simple décret. Ça, c'est une décision du Premier ministre. Nous nous y sommes engagés, nous allons le faire. Nous avons des mesures de pouvoir d'achat, bien entendu, de baisse de TVA. Bien entendu qu'à côté, nous avons évidemment imaginé les financements. Je vous donne un exemple. Nous sommes, par exemple, pour une taxe sur les surprofits. Pas pour les profits, les entreprises doivent faire des profits, c'est normal. Elles font parfois des surprofits. Par exemple, la grande distribution, pendant le Covid, c'était pas dû à sa stratégie d'entreprise, ils ont profité du fait que les petits commerces alimentaires fermaient, tout le monde s'est rué donc dans les grands centres commerciaux, ils ont fait des surprofits. Eh bien, nous allons leur demander une contribution supplémentaire. Dans le temps, ce sera pas évidemment pour toujours, mais dans le temps, nous allons leur demander, parce qu'ils ont engrangé beaucoup d'argent, une contribution supplémentaire. Pareil pour les énergéticiens. 300 milliards, rapport de la Cour des comptes, vous l'avez donné, 30 milliards de bénéfices, pas indus, mais en tous les cas, les énergéticiens ont empoché 30 milliards de bénéfices supplémentaires. Eh bien, nous allons leur demander également de faire un effort pour nous permettre, nous, de baisser la TVA pour les Français. Vous voyez ces mesures-là, et je donne aussi un autre exemple, parce que ça a été fait en Portugal, et qui n'est pas un gouvernement qui ressemble au Rassemblement National. Ils ont pris une mesure de baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, notamment dans l'alimentaire. Eh bien, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? Ils l'ont reconduite. Là, il y a quelques semaines, ils ont reconduit ces mesures. Ça a fait baisser l'ensemble, non pas uniquement des produits premiers de nécessité, l'ensemble des produits. Parce que vous voyez bien que chez Leclerc, ils sont en concurrence avec Carrefour, je cite des marques. Mais évidemment, ils vont s'ajuster. Donc, nous ne sommes pas des gens irresponsables. Nous considérons qu'il y a les grands chantiers.
Vous n'allez pas aggraver la dette ?
Bah non, on va essayer de la faire reculer, parce que nous avons considéré, c'est dans notre programme, que la dette, une dette, ça doit se payer. Je rajoute que M. Mélenchon a dit que la dette lui, s'en laver les mains. Mais si on paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe? On peut plus emprunter. Si on paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe? C'est le PIB qui va baisser. Si on ne paye pas la dette, qu'est-ce qui se passe? Un moment, c'est l'épargne des Français qui va être mis en contribution. C'est là où l'extrême gauche représente un danger. Donc nous, on est des gens responsables.
Aucun impôt n'augmentera. Aucun.
Non.
Et on mise sur les profits. Alors, rien.
Bah, je vous ai donné des exemples d'une fiscalité qui pourrait être alourdie pour des grandes entreprises qui ont fait des surprofits. Vous pouvez dire que ce sont peut-être effectivement une, c'est une contribution qu'on leur demande, qu'on va un
et
effort
pour
qu'on
les
va
Français,
leur demander.
Les impôts n'augmenteront pas.
Non mais et pour les Français
temps,
non.
Non mais regardez, si la procédure pour déficit excessif est confirmée, l'effort budgétaire que ça va représenter pour la France pour les 4 années à venir, c'est 15 milliards annuels. Donc c'est 15 milliards annuels de d'efforts. Donc 15 milliards d'annuels. Donc c'est-à-dire c'est 15 milliards d'efforts annuels, etc. Et donc concrètement, sur quoi vous c'est quoi les leviers? Où vous les faites ces 15 milliards? Comment dire? C'est
un problème. Vous avez raison, monsieur. J'ai un chiffre très facile à trouver, qui est à aligner, qui est celui qu'a sorti Gabriel Attal lorsqu'il était ministre des Comptes Publics. Il a été un éphémère ministre des Comptes Publics. Il avait dit il y a 10 milliards d'euros à aller chercher dans la fraude fiscale et sociale. Il y a 10 milliards d'euros à aller chercher, même si on rattrape pas tout, parce que c'est pas toujours simple. Il y a 10 milliards d'euros, dit Gabriel Attal, à aller chercher dans la fraude. Vous avez déjà une piste. Je vous ai parlé de contributions supplémentaires pour les surprofits. Je pourrais parler de la taxe sur les rachats d'actions. Il se trouve que le gouvernement avait imaginé avancer sur ça. Nous, on l'aurait suivi s'il était allé sur ça. La taxe sur les rachats d'actions, ça permet tout simplement à ce que ça incite les entreprises à réinvestir dans leur outil et pas simplement à se racheter les actions entre elles. Oui. Là aussi, on a des marges. Et vous voyez que les 15 milliards, on est déjà plus très loin. Et puis il y a le
tabou. Gauche, ça.
Et puis il y a le tabou.
De l'immigration,
du coût de l'immigration qui va faire hurler certains, mais il y a là aussi
un programme de gauche,
il y a là aussi
il y a que des taxes,
des milliards d'euros,
il y a des taxes sur les
profits,
des taxes sur les rachats d'actions,
je vous ai indiqué que l'effort que nous demandions était à ceux qui faisaient des surprofits, que nous soutenons au contraire les entreprises. Nous avons une politique qui est nécessaire, il sera nécessaire de réunir d'ailleurs les partenaires sociaux et en tous les cas les entreprises, qu'on a imaginé avec les PME, les TPE, c'est celle d'augmenter les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. C'est une mesure qui rencontre l'adhésion des petites boîtes. Pas la hausse du SMIC, parce que la hausse du SMIC, ils peuvent pas l'absorber. Tout le monde le sait. Et puis, si vous augmentez le SMIC à 1600 euros, ça veut dire que les gens qui aujourd'hui sont à 1600 euros se retrouvent au SMIC. Et comment vous faites? Comment les boîtes font pour payer? Elles vont augmenter, évidemment, ce qu'elles vendent.
Vous contre l'augmentation du SMIC, c'est pas mal d'en parler quand même.
Mais regardez, je vous donne l'exemple d'un boulanger. Son ouvrier boulanger, il va l'augmenter à 1600 euros. Comment il fait? Ça lui coûte 3200 euros. Donc, il va augmenter le prix de ce qu'il vend, le prix de sa baguette, le prix. Enfin, vous vous rendez compte que c'est inflationniste. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.